meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Nadia l'a dit, c'est parti pour la causerie, comme tous les dimanches de 22 à 23 heures. Bonsoir à toutes et à tous. Et ce soir, à la causerie, autour de la table, et d'abord à la technique, s'il vous plaît, Clara.
Bonsoir.
Coucou. Fab.
Salut.
Il y a aussi Stan.
Salut.
Et Jean-Yves qui a fait une ouverture presque comme au catch. Dès qu'il a entendu la cloche, il est parti.
Ouais, carrément, ça me... Ouh, je suis à fond là. Alors, avant d'attaquer la causerie, deux, trois petits rappels, comme d'hab. Si vous voulez nous joindre par mail, ça se passe à l'adresse...
lacauseriecanu@gmail.com. Alors, tout attaché en minuscules, lacauseriecanu@gmail.com.
C'est nickel. Et pour retrouver toutes les émissions... Parce que, je sais pas, vous découvrez aujourd'hui la causerie, qu'en fait vous dites waouh, c'est vraiment trop méga génial, il faut que je connaisse toutes les autres avant.
Je voudrais me faire les 173 autres. Vous êtes dans.
Oui, c'est ça. Oui, ce soir, c'est crise d'ego. Alors, ça se passe sur le blog à l'adresse blogs, donc au pluriel, .radiocanu.org/la causerie, ou sinon vous allez sur le site de Radio Canu, il y a un onglet, les blogs des émissions, et vous nous y trouverez au milieu des autres.
Juste signaler qu'on a un petit peu remodelé le blog, qu'il est un petit peu plus ergonomique si vous cherchez... Oui, j'avais envie de placer ce mot-là. Je vous dis tiens, on va placer...
Qu'est-ce qui arrive ?
Ergonomique. Non, mais voilà, c'est pas grave. Non, mais en fait, on a essayé de classer un petit peu, alors notamment les gens qui suivent en particulier les émissions astronomiques.
Oui.
On les a réunis en une seule page, de façon à ce que ce soit plus facile à trouver, comme les entretiens ou qu'on a mis sur une seule page aussi, si vous recherchez spécifiquement ces émissions-là.
C'est ça. Voilà. Et après, on va s'arrêter avec les onglets, parce que la causerie, c'est aussi un peu un gros mélange et un gros bordel.
C'est vrai.
Sinon, c'est un peu trop carré. C'est moi qui dis ça. Enfin bon, bref. Alors, ce soir, c'est Stan.
Pour changer.
Pour changer. J'aime parce qu'à chaque fois que tu es là, tu fais jamais l'ouverture en dernier. C'est pas compréhensible ce que je viens de dire. Alors, ce soir.
J'ai pas compris en tout cas.
Moi non plus. Ce soir, tu nous parles des femmes dans l'informatique.
C'est bien ça.
Eh ben,
allons-y.
Allons-y.
Voilà. Alors. Je me lance, allons-y, go. Donc on est au tout début, aux prémices de l'informatique, même c'est presque, on peut pas appeler ça de l'informatique à cette date-là, vu qu'on est en 1830. Donc en 1830, il faut essayer de s'imaginer un truc, c'est pas de l'informatique vraiment, c'est quelque chose de... voilà. On a une femme, une comtesse anglaise, qui s'appelle Ada Lovelace, qui rencontre Charles Babbage. J'ai même pas vu que c'était Babbage, qui est un concepteur d'une machine, donc Analytics, une sorte de calculateur mécanique, enfin un truc assez, pour l'époque, quand même bien en avant, c'est plutôt bien. Et elle se retrouve en fait à bosser avec ce mec et à bosser sur cette machine, et elle va commencer à rédiger un tas de trucs dessus, et en fait, ça va être la première femme et la première personne, pas la première femme, la première personne, à créer un algorithme informatique. Elle va créer quelque chose, elle va créer donc un algorithme, vulgairement parlant, ça va être une résolution automatique de certains calculs à partir de données en utilisant une formule.
C'est classe.
Je repasserai parce que... Voilà.
Alors en plus, vulgarisé de moi-même, donc je sais absolument pas, c'est une définition qui est vraiment bien, tu vois. Mais bon. Moi ça me parlait en tout cas. Donc voilà, elle a créé le tout premier algorithme de l'histoire de l'informatique. Donc on peut dire que la première programmeur, programmeuse, est une femme en fait, en 1830. Et elle est reconnue comme telle, hein, c'est pas juste, voilà, ce qu'elle est reconnue comme ayant créé le premier algorithme informatique. Mais elle va beaucoup plus loin que ça en fait, et ça qui est assez impressionnant, c'est que même à l'époque, elle est la première à envisager et à mettre sur papier des applications potentielles de l'informatique dans divers domaines d'application. Elle imagine déjà ce que ça va pouvoir devenir. Elle se projette et elle comprend que ça va aller bien au-delà des mathématiques. Parce qu'à l'époque, l'informatique, ce n'est pas encore nommé l'informatique justement, et c'est complètement lié aux mathématiques.
D'accord.
On est vraiment sur de la mathématique et c'est tout. Donc elle devient, elle pose ça sur papier, elle projette un petit peu tout ça, et ben forcément elle va conditionner en partie l'histoire de l'informatique. Voilà. On va faire un petit saut dans le temps, on va passer tout de suite aux années 1950, au temps des premiers ordinateurs. Là, on est dans la programmation, c'est un domaine qui est essentiellement réservé aux femmes, pour une raison qui est assez extraordinaire, c'est qu'à l'époque, était considéré que faire un algorithme ou faire des tâches informatiques, c'était pas vraiment une tâche intellectuelle.
Ah oui, on voit, il y a déjà un peu de mépris dans
voilà, tout ça. Donc c'était réservé aux femmes.
D'accord.
Et très clairement, par exemple, dans les années 60, les ordinateurs du CNRS sont gérés par des femmes.
D'accord.
C'est vraiment un domaine qui est encore féminin. Les premières thèses informatiques, elles sont généralement soutenues par des doctorantes et pas par des doctorants. On est vraiment sur un milieu féminin.
D'accord.
Alors, bien sûr, il y a des hommes, bien sûr, il y a un petit peu tout, mais on est sur un milieu, on a poussé un petit peu les femmes dessus, c'est intéressant, ça fonctionne bien, etc. On arrive dans les années 70-80. Et là, d'un coup, l'ordinateur qui était quelque chose, un petit peu, une espèce de grosse machine quelque part, ça commence à se répandre dans les entreprises, ça commence à avoir une utilité qui va un peu plus loin, et là, toutes les boîtes se disent « Oh là là, mais il n'y a personne, il n'y a pas assez de monde qui sait s'occuper de ça, et qui sait gérer ça, donc il va y avoir des espèces de grandes campagnes de recrutement pour demander aux gens de travailler là-dessus, d'étudier ça, et il faut rendre ça sympa. » Il faut rendre ça un petit peu, il faut donner envie d'y aller, il faut donner envie d'apprendre ce genre de domaine. Et donc, comment à l'époque on rend ça sympa ? Eh ben, on le rend un petit peu élitiste, on rend ça un petit peu déjà bien payé, et on en fait un métier d'homme.
Forcément.
Voilà, on pousse vraiment les hommes à aller là-dedans.
Donc il y a vraiment une volonté, non pas de garder les gens qui sont déjà présents, donc la majorité des femmes, mais bien de les remplacer par des hommes, dans la logique d'époque. Quoi.
Alors, dans la logique d'époque, c'est même pas remplacer par les hommes, c'est il faut trouver de la main-d'œuvre, et même si les femmes sont un petit peu déjà en place, alors qu'il y a le choix quelque part de soit s'adresser aux deux, soit s'adresser machin truc, on va s'adresser essentiellement aux hommes, en rendant vraiment ce métier totalement masculin.
D'accord. Ouais.
Et en poussant vraiment les recrutements et tout ça sur le milieu masculin. Et à côté de ça, donc là, on a une première partie qui ce masculinisme. C'est pas mal comme mot. Et puis, il y a un deuxième mouvement, ces deux grosses étapes dans les années 70-80, c'est les salles d'arcade, les jeux vidéo, les jeux consoles de salon qui arrivent. Et là, c'est du loisir, il faut le vendre, il faut trouver des acheteurs. Et vu qu'il y a déjà un cliché qui est mis en place, un cliché de l'homme qui fait de l'informatique, un marketeur de base, il va pas forcément vouloir changer le cliché, donc il va vendre aux hommes, il va vendre aux enfants, aux petits garçons, etc., etc. On va faire des jeux de combat, on va faire des jeux de sport, donc, voilà, très axé déjà, enfin garçon quand même, pour l'époque, on est vraiment sur, voilà, on reste sur cette chose-là, et d'un point de vue professionnel et d'un point de vue loisir, on a transformé quelque chose qui était un peu plus pris par les femmes en quelque chose qui est essentiellement réservé aux hommes. Le pourcentage des femmes, lui, il commence à se réduire drastiquement, et c'est notable en fait, il y a des chiffres. Dans les années 70 et au début des années 80, les filières de l'informatique sont autour de 30-40% féminisées. Ce qui est un très beau pourcentage. Et c'était une des filières les plus féminisées. De nos jours, c'est celle avec l'aéronautique la moins féminisée. Les branches de l'ingénierie informatique. On passe de 30% à 12-15%. Aux États-Unis, on passe de 37% à 18%. Alors, On a vraiment une chute qui est concrète, qui est réelle.
Et en fait, mesurable.
Qui est mesurable. En fait, il n'y avait aucun renouvellement, il n'y avait aucune nouvelle envie. Les chiffres donnent... On n'a pas poussé les femmes à aller dedans, en fait. On a vraiment fait en sorte que, ben, non, ce n'est pas pour vous. Et comme l'informatique, en plus, est devenue, comme l'avait prédit Ada Lovelace, que j'ai cité au tout début, c'est une pièce centrale de notre quotidien, de notre économie. Eh ben, on a mis en plus, avec tout ça, des petits clichés. Et il y a eu des ados qui se sont mis à bidouiller, il y a eu voilà, tout ça, et donc et on s'est mis en place la figure geek. Mmh. Et le geek a poussé, encore une fois, ce cliché-là a poussé à la masculinisation de ce domaine. Le geek, c'est un mec, dans l'imaginaire. Mmh. C'est un mec avant tout. Et c'est vraiment dans les années 90... les années 2000, toutes les séries, les choses comme ça, on était encore sur ce stéréotype, sur ce cliché absolument faux. Et c'est que maintenant, on pourrait, pourquoi pas, débattre de certains parties dans certaines séries où on a fait rentrer des actrices geeks, des choses comme ça. Mais ça reste rare, on est quand même toujours sur le geek, c'est un mec.
Oui, puis même dans les séries, généralement, elles n'y arrivent pas toutes seules. Il faut toujours qu'il y ait un gars qui arrive à un moment donné. Enfin, ça arrive dans certaines, mais la plupart, il y a quand même cette notion-là. Enfin,
toujours cette notion-là. Ouais. Souvent, on fait un duo.
Voilà, c'est ça.
En fait, on la laisse pas toute seule.
Bah ouais, parce que quand même.
Quoi. Parce que bon, faut pas non plus. Ouais. Hey, faut allumer le PC le matin quand même. Hein.
Ah, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Enfin, on est vraiment dans le cliché. On reste dans ce cliché masculiniste finalement de l'univers informatique. Quoi.
Et pour, voilà, dans des chiffres, c'est absolument pas à de nos jours. Un IUT informatique avec 6 filles pour 120 garçons, c'est classique. On est vraiment là-dessus, il n'y a aucune surprise. C'est dans un amphithéâtre, enfin, y a pas, c'est ça.
D'accord.
Voilà. Et donc moi, je voulais rendre un petit peu hommage à quelques grandes femmes de l'informatique. Donc j'ai un peu parlé de Ada Lovelace au début. Qui a un petit peu lancé la chose. On va faire un saut parce que forcément en informatique dans les années 1800 il s'est pas passé grand chose. Bon, il s'est passé plein de choses mais bon, c'est un peu compliqué d'en parler. Moi je vais vous passer d'une des plus réputées, une des plus grandes personnes, s'il y a un nom à retenir, elle s'appelle Grace Hopper. Donc elle est née en 1906. Elle a travaillé sur les trois premiers ordinateurs du monde qui sont des PC qui avaient été faits à Harvard, qui sont le Harvard Mark 1, 2 et 3 dans les années 40. Elle est à l'origine de l'expression bug. Donc c'est elle qui avait vraiment trouvé, par contre pour le coup, c'est un vrai insecte qui avait creusé une panne.
D'accord.
Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un bug. Elle est aussi à l'origine d'un langage assez important, vu que c'est le langage COBOL, et qui est un des premiers langages, voire le premier, où en fait elle était partie prise de dire un langage informatique, il faut qu'on puisse l'écrire en anglais. Enfin, dans une langue parlée et pas dans une langue ordinateur.
Ok.
Voilà, donc elle a créé un langage informatique qui a vraiment été destiné à être un petit peu plus facile à appréhender et à facile à apprendre.
C'est voilà. Le fameux langage if, quelque chose.
Exactement, on est vraiment sur...
En anglais, quoi.
C'est de l'anglais.
Si, ça, alors,
okay.
If, then, voilà. Donc voilà.
Une autre personne...
Non mais ok.
Excuse-moi, je t'ai vu bouger. C'est perturbant.
C'est parce que moi, je regardais si j'étais le seul qui était pas geek ici. Parce que je suis perdu.
Attends, c'est pire après. C'est pire.
Cool.
C'est pire.
Allons-y.
Après, je vais vous parler de Jean Samet. Donc, née en 1928, elle développe le langage informatique Formac en travaillant chez IBM dans les années 50. Elle collabore sur le langage COBOL. Elle est présidente de l'ACM, une association de computing machinery qui rassemble les plus grands esprits des débuts des sciences informatiques. Elle programme un ordinateur speed hack en entrant à la main du code binaire en 3 jours. Alors pour toi, le code binaire, c'est juste des 0 et des 1.
Oui, ça je sais.
Et pendant 3 jours, taper des 0 et des 1 et donner un résultat à la fin.
Ah ouais.
Badass.
Ok.
Madame. Et Karen Spark-Jones, qui est aussi une des pionnières de l'intelligence artificielle. Elle travaille dans l'analyse automatique du langage naturel. Et elle travaille en fait énormément sur l'occurrence des mots dans un texte pour pouvoir comprendre le texte sans avoir à le lire. En fait, le logiciel analyse le texte,
ouais.
Et suivant la redondance des mots, etc., ça te donne les thématiques.
D'accord.
Et très clairement, c'est à la base de ce que fait Google aujourd'hui. Okay. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est un algorithme, enfin, ça a été beaucoup retravaillé après, mais on retrouve vraiment, c'est les mêmes thèmes, enfin, c'est la même chose.
D'ailleurs il y avait une suspicion que, alors c'est comment le truc chez Apple, Siri c'est ça,
ouais,
était piqué à son, ses travaux sans lui dire.
Oh.
C'est-à-dire qu'ils avaient un peu emprunté beaucoup de ce qu'elle avait fait. Et qu'en fait, bah, il lui avait pas trop dit quoi. Il a oublié de la prévenir.
Sympa. C'est toujours sympa.
Parce que c'est le principe quoi. Okay. Siri lit un texte et te dit, vous aimez bien tel auteur, mais elle a pas lu tout l'auteur quoi.
Oui oui, ok, d'accord. Je comprends. Merci.
Je vais vous parler juste. Bon, il y en a beaucoup aussi de nos jours, donc j'en ai beaucoup de dans le passé et encore de nos jours. Alors, on va en nommer deux rapidement. Marissa Mayer. Employée chez Google, la première femme à avoir été employée chez Google en tant qu'ingénieure. Elle a travaillé sur quasiment tous les produits Google. C'est à elle qu'on doit le minimalisme de la page d'accueil. Ça vous paraît rien, mais cette page d'accueil-là, cette forme-là, ça révolutionne totalement le web à cette époque, okay, vu qu'on est sur un système à l'époque blindé d'informations, etc. Donc elle prend ce parti pris-là. Et elle est appelée en 2012 par Yahoo pour sauver Yahoo. C'était juste ça en fait. Yahoo était tout au fond et voilà, est venue pour sauver Yahoo. Elle a fait des très bons résultats les premières années, mais après sauver Yahoo, c'est compliqué. Et je vais aussi vous parler donc de Michelle Baker, qui n'est rien de moins que la présidente de la fondation Mozilla. Donc depuis 2003, ce qui commence à faire un petit peu de temps. Et donc Mozilla Firefox, c'est un navigateur qui est utilisé partout dans le monde par des millions de personnes. C'est aussi Thunderbolt, c'est aussi un très très grand nombre de parcs de produits gratuits, open source généralement. C'est vraiment quelque chose qui marque notre époque, qui est très important. Voilà, donc il y en a une infinité d'autres, on va pas toutes les faire, mais voilà, moi c'était juste pour rappeler l'importance des femmes dans l'informatique et à quel point des décisions marketingement politiques récentes ont pu les éloigner d'un prestige. Voilà.
C'est bien dit comme ça.
Carrément quoi.
Mais c'est intéressant parce que vraiment on voit comment on arrive à comme tu dis, simplement par le marketing et par le... finalement la prise de pouvoir, hein, parce que c'est ça, à éliminer complètement celles qui ont fondé les choses et qui se retrouvent à être écartées comme ça, mais en 30 ans quoi même.
Et à les oublier.
Et à les oublier en plus, oui, c'est
parce
ça le pire.
Parce que quand je faisais la chronique, je regardais un petit peu partout et tous les profs d'informatique, quand ils disaient que le premier programmeur, en fait, c'est une programmeuse, les étudiants d'informatique tombent des nues en se disant « mais c'est pas possible, c'est une blague ». Et même quand moi j'ai préparé, quand j'en parlais autour de moi... T'as réagi en me disant, mais qu'est-ce que... Avant, c'était féminin, l'informatique, oui. Mais... Voilà, on a complètement occulté cette partie-là, et on a complètement... voilà. C'était du passé, on s'en fout.
Mais c'est l'occasion de rappeler quelque chose qu'ils ont dit dans l'ère du jeu. Ouais. Vous savez, l'émission geek et de joueurs du samedi à midi, que je vous conseille tous d'écouter, surtout quand il y a Marjo, justement, parce qu'elle est marrante, tout ça là-dessus. Et disait, ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, on a, par exemple, chez les gamers, 52% de gameuses, donc de nana, et qu'en fait le marketing ne suit pas. C'est-à-dire qu'on continue à s'adresser qu'à des hommes, quasiment, alors qu'en fait, il y a plus de femmes qui jouent que d'hommes. Et donc c'est un peu... C'est là qu'on voit que même là, il y a une résistance quand même.
Alors, pour le coup, c'est purement du marketing. Le jour où ça va se stabiliser, enfin, les ventes vont stabiliser, ils vont forcément faire plus attention à qui ils s'adressent.
Oui, mais c'est dingue de prendre 50 ans pour le faire.
Mais
oui, mais c'est ça, c'est toujours c'est le business qui c'est prime sur tout. Et il n'y a pas d'éthique de politique. Enfin, de politique qui mettrait les choses en question.
Oui, il n'y a pas d'éthique, effectivement.
Ah bah non, oui, ils vont dans le sens du vent. Hein. Si demain le vent il tourne, bah ils tourneront.
Et je voulais juste finir parce que j'avais oublié ça et je trouve ça très très drôle. Une des personnes que je vous ai présentées, donc Karen Spark-Jones, avait son petit slogan perso: l'informatique est trop importante pour la laisser aux hommes.
Ça, c'est un beau slogan.
Eh ben, on va aller sur de la musique alors. Ah, pardon. Bonsoir Clara. Je crois qu'on va s'écouter un peu de musique.
Oui, allons-y.
Like no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. I will travel across the land searching far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, it's you and me. In a world we must defend. Pokemon, our hearts so true, our courage will pull us through. You teach me and I'll teach you. Pokemon, gotta catch them. Oh, gotta catch them. Challenge along the way, with courage I will face. I will battle every day to claim my rightful place. So won't you come with me? The time is right. There's no better team. Arm in arm we'll win the fight. It's always been our dream.
Ouais, bah, c'est ce qu'on appelle un plan.
Voilà. Non mais ça m'a pris dépourvu. Alors nous avons écouté Pokémon Theme Song version jazz avec donc c'est de Scott Bradley chanté par Sarah j'adore les prénoms et les noms de famille, je m'en sors jamais. Niemiens. Dans tous les cas, je vous conseille absolument d'aller sur la chaîne YouTube de Scott Bradley. C'est beaucoup de reprises en version jazzy de tout et n'importe quoi. Il prend toujours des chanteuses ou des chanteurs qui sont absolument formidables. Et voilà, et allez écouter ça, c'est merveilleux.
Et vous êtes bien dans la causerie, 22-23 le dimanche.
Mais oui, c'est ça,
parce
toujours.
On a eu un petit problème technique.
Oui, bah, on a pris Clara au dépourvu et au retour, on a été pris au dépourvu. Bah voilà.
Elle s'est vengée.
Non, je crois pas.
Non, même pas.
Non. Et pardon, en sujet 2, bah, c'était toi, Fab, tu nous parlais d'un livre.
Oui, je vais vous parler d'un livre qui est sorti en 2008 qui s'appelle La meilleure part des hommes. Voilà, alors je vais d'abord vous situer l'auteur parce que c'est intéressant. L'auteur, c'est Tristan Garcia, pardon. Il est né le 5 avril 1980 à Toulouse. Et il est écrivain et philosophe français. Et pour les Lyonnais, vous l'avez peut-être déjà croisé parce qu'il est maître de conférences dans le département de philo de l'université Jean Moulin Lyon 3. Donc il y a peut-être des Lyonnaises et des Lyonnais qui l'ont même comme prof, qui nous écoutent et qui le connaissent. Voilà. Il a passé son enfance en Algérie. Il est passionné de cinéma et de séries télévisées, mais aussi de philosophie. Donc ça tombait bien quand même. On le dit proche d'Alain Badiou. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est un petit peu dans le même courant philosophique qu'Alain Badiou. Moi, personnellement, je n'ai pas lu de philo de sa part, donc je serais incapable de le dire. J'ai juste repris ça de sa fiche de présentation Wikipédia. Hein, je vais le dire très clairement. Et il est passé par l'ENS d'Ulm et il s'est spécialisé en philosophie. Et il a donc jusqu'au doctorat, il a posé une thèse de philo. Et donc, il est docteur en philosophie. Voilà, une fois qu'on a posé ça, ça pose un petit peu le bonhomme. Parce qu'en fait, on voit que c'est pas quelqu'un qui a pas l'habitude de se poser des questions. Parce que généralement, quand on aime la philosophie, on se pose des questions. À part dans quelques courants philosophiques où on oublie de s'en poser, mais généralement, globalement, on s'en pose. Et c'est intéressant parce que il va sortir chez Gallimard en fait en septembre 2008. Ce livre qui s'appelle La meilleure part des hommes. Il faut savoir que le livre a été refusé 5 fois avant qu'il soit enfin édité. Et en fait, c'est lié en grande partie à son sujet, parce qu'il va essayer, au travers du parcours de 3 personnages, de décrire l'arrivée du sida au sein de la communauté gay, voilà, et du mouvement et son impact sur le mouvement homosexuel dans les années 80, fin des années 80, et donc on va aller jusqu'au début des années 2000. On va suivre ces personnages pendant un certain nombre d'années. Ce qui est intéressant, c'est que quand il sort son livre, la critique pourtant lui assure un accueil plus que favorable, parce qu'on même très dithyrambique sur ce livre qui serait génial. Alors moi, pour ma part, je trouve que l'accueil il est un petit peu surdimensionné par rapport au livre, parce que même si la qualité elle est là, c'est un très bon livre, il révolutionne pas le roman à mes yeux, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une forme qu'on a déjà connue par ailleurs, et il y a pas c'est pas le Rimbaud du 21e siècle quoi. Bon, c'est pas grave, hein, tout le monde n'est pas vocation à être Rimbaud.
Voilà. Oui, et puis entre Rimbaud et puis, je pense que voilà. Écrire,
non mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui l'ont carrément appelé le Rimbaud du 21e siècle, et donc du coup, je trouve que c'est un petit peu beaucoup pour quelqu'un qui a sorti un roman qui est bon, voilà. Bon. Par contre, moi, je vais dire quelque chose d'important, c'est qu'en fait, s'il n'est pas révolutionnaire sur sa forme, il est pour moi révolutionnaire sur le fond et sur ce qu'a fait Tristan Garcia. Parce qu'en fait, Tristan Garcia, il n'a pas du tout connu l'arrivée du sida. Hein, je vous dis, il est né en 1981, donc lui, quand le sida est arrivé, il était tout petit, hein, donc il était enfant. Mais il fait partie de ce qu'on appelait la génération de l'après. Vous savez, c'est-à-dire que l'après-sida, celle que généralement autour de la table, vous faites quasiment tous partie de cette génération, sauf moi. Et voilà.
Non, mais lui non plus.
Lui ne. Mais ouais, là, non, mais du don, on va pas donner les âges. Et voilà. Donc
l'après.
C'est la génération de l'après.
Bien. Oui, ok.
Donc
oui,
c'est cette génération, puis celle qui a suivi, qui en fait est un petit peu, on va dire, abreuvée assez tôt de prévention, de tout ça, mais qui n'était pas du tout le cas quand le sida est arrivé. Et en fait, dans son livre, il va pourtant arriver à décrire avec profondeur et justesse ce qu'on a appelé les années sombres, c'est-à-dire les années d'arrivée du sida. Et il va le faire en fait avec quelque chose qui, moi, m'a beaucoup plu, c'est qu'il va le faire sans caricature et sans pathos. C'est ça qui, moi, à mon avis, était le plus difficile, c'est d'arriver à parler d'un sujet aussi sombre et aussi dur sans rentrer dans le pathos. Parce que souvent, dans les livres, y a des gens, des auteurs, ils n'arrivent pas à faire autre chose qu'essayer de nous faire pleurer. Mmh. Lui, en fait, il n'a pas du tout envie d'essayer de vous faire pleurer, il a envie de vous décrire des situations. Après, vous les prenez comme vous voulez, vous les ressentez comme vous voulez, mais ça, c'est votre problème, c'est pas celui de l'auteur, et je trouve ça plutôt très agréable. Comme il le souligne, lui, les années 80 ont été celles de la mort de la philosophie, de la mort du politique, de la mort des grands idéaux, mais c'est surtout l'arrivée de l'homosexualité sur le devant de la scène, parce que ça c'est une réalité, et en parallèle, parce qu'il ne fait pas de lien de cause à effet, contrairement à ce que certains ont cru, c'est aussi l'explosion des médias libres et l'arrivée de la musique électronique comme norme, c'est-à-dire que c'est à partir des années 80, début des années 90, que la musique électronique s'est imposée comme étant une sorte de norme et qu'on entend partout à la radio, sauf sur Radio Canu, globalement. Il y en a un petit peu, mais beaucoup moins qu'ailleurs. Mais voilà, mais c'est intéressant parce qu'en fait, il va réussir à décrire cette espèce de passage, cette espèce de grand écart, en réalité, qu'on a entre la fin des années 70, le début des années 80, et finalement la fin des années 80 et le milieu des années 90, et se rendre compte qu'en une quinzaine d'années, en fait, on a vraiment fait un changement du tout au tout. Voilà. Et comme il l'explique lui dans son livre, il l'explique pas directement. Donc il va passer par des personnages, évidemment, parce que c'est un roman, je vous rappelle, ce n'est pas une étude philosophique. Bien que son livre soit très teinté de philosophie, et ça, on comprend par rapport à son parcours que c'est parfaitement logique.
On se refait pas.
Bah oui. Mais du coup, ça rend le livre très intéressant. Donc il y a quatre personnages. Plus exactement, en fait, on suit trois hommes et une femme. Alors pourquoi je dis plus exactement ? Parce qu'en fait, il y a d'abord Dominique Rossi, dans le livre, qui s'appelle Doumé, qui est un ancien prince de la nuit, et qui est journaliste, qui est issu du milieu, des milieux d'extrême-gauche, et qui fonde au milieu des années 80, dans le livre toujours, Stand, un mouvement d'émancipation et de prévention contre le sida. Bon, pour ceux qui ont connu un petit peu le début...
Toute ressemblance avec...
Avec ACT UP ? Bon, et ben voilà. Parce qu'en fait, en réalité, on a un parallèle clairement avec ACT UP. Et ensuite, on suit Jean-Michel Lebovitch, qu'on appelle Lebo dans le livre, qui est marié, père de deux enfants, qui est philosophe médiatique, prenant à son époque à contre-pied, et qui va tellement la prendre à contre-pied qu'il va peu à peu glisser de la gauche vers la droite, voire quasi l'extrême droite. Toute ressemblance avec Alain Finkielkraut serait purement fortuite. Nous avons ensuite William Miller, qu'on appelle Will, qui est une sorte de Rimbaud incontrôlable et qui écrit tout et son contraire, qui est provocateur, qui est adepte du bear baking à l'époque où en fait on essaye de se protéger du sida.
On peut peut-être préciser.
Bear baking, c'est les rapports non protégés.
Oui.
C'est-à-dire, ça veut dire en américain, très clairement, c'est monter à cru. Voilà, très, très clair comme ça. Voilà, et qui va devenir. Un très court temps, une icône sulfureuse d'une partie du milieu gay, avant d'être complètement oubliée de nouveau. Voilà. Et puis, ben, on va suivre surtout Elisabeth Levallois, qui est la narratrice. Et Elisabeth Levallois, c'est une journaliste culturelle à Libération, amie de Doumé, confidente de Will et maîtresse de Lebo. Vous voyez, donc c'est elle qui va faire le lien entre ces trois personnages. Et en fait, elle tourne à vide autour d'une existence qu'elle subit plus qu'elle ne vit. Elle le dit souvent dans le roman, elle subit plus sa vie qu'elle ne la vit réellement. C'est elle qui écoute, console, soutient. Et là, vous allez voir un petit peu en filigrane se dessiner la figure de la gentille fille APD. Mmh. Voilà, vous savez, celle qui n'a pas vraiment de vie et à qui les homosexuels oublient juste que les femmes ont aussi une vie et parfois même une âme. Voilà, c'est un truc de dingue, mais voilà. Et c'est très intéressant parce qu'il ne va pas le dire dans le livre, mais il va vous le faire très, vraiment ressentir. C'est-à-dire que c'est vraiment l'éponge de ces trois personnages. Alors, il y en a un qui n'est pas homosexuel, hein, le Lebo, mais les deux autres le sont et ils ont vraiment une... Elle devient vraiment l'éponge, quoi.
Il s'accapare.
Il la phagocyte, quoi. C'est hallucinant. Alors, elle va observer, écouter, relater sans jugement ou presque dans le livre tout ce qu'ils font, tous leurs combats, tous leurs idéaux, bafoués souvent, leur tangage politique, leur lâcheté, leur renoncement, leur trahison, leur soif de reconnaissance dans une époque où s'impose peu à peu le libéralisme, la pensée unique, entre guillemets, et la fausse compassion, le fric et le show. Parce qu'on est au milieu des années 80. Je vous rappelle qu'à l'époque, on avait un gars qui était ministre et qui s'appelait Bernard Tapie. Donc, je vous laisse un peu imaginer le climat de l'époque. Hein. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, aucun de ces personnages n'est caricatural. On est plus face à des humains comme les autres, alors au sens où ils ont leur part d'ombre et leur part de lumière, leurs envies, leurs contradictions, et que surtout, bah, parfois, on en tire le meilleur, d'où le titre « La meilleure part des hommes ». Des hommes étant au sens humain, hein. Mais en l'occurrence, elle n'a que trois hommes sous la main à vous décrire. Donc, voilà. En fait, on découvre assez vite que la meilleure part des hommes, elle ne peut apparaître qu'en miroir de leurs parts les plus sombres. Bah oui. Parce que pour connaître la meilleure part de quelqu'un, il faut souvent avoir vu son côté le plus sombre pour comprendre qu'il n'est pas que sombre ou qu'il n'est pas que lumière. Vous voyez ? C'est ça le truc. Je vais vous lire juste un petit passage, après je reprends ma chronique. C'est pour vous ayez un peu le ton.
Ouais.
Alors. C'est à peu près vers le début du livre. Willy avait un instant le regard dans le vide, puis il repartait. Il m'a dit, en désignant la lettre qu'il venait d'ouvrir d'un major plein de dédain, « Lise, tu te rends compte ? Si je veux garder mes allocations chômage, il faut que je me présente à un certain ANPE. Et puis quoi encore ? Tu te rends compte la pression ? Je veux dire, le travail c'est quand même une connerie. Pourquoi plus personne n'ose le dire ? Je sais pas, Will. Je suppose que tout le monde pense que c'est nécessaire. » Il mangeait des cacahuètes grillées en caleçon torse nu. L'habitude, quoi. Il avait des manières, des fois. Je suis un dandy, Lise. Si tu as compris ça, tout est élégant. C'est simple, sincère et pur à la fois. Suffit de l'avoir en tête. C'était un rêve qui avait été tellement... C'était un être, pardon, qui avait été tellement seul qu'il avait toujours besoin de se trouver entouré, sans jamais avoir besoin de personne en particulier. Il vous le faisait sentir. Il faisait mine de fumer son stylo bic comme une cigarette, les yeux en l'air. Tu sais, Lise, il faut faire quelque chose. tout ce bullshit de, sur le travail, tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable qu'on accepte ça. Moi, c'est simple, je veux pas. Tu vois, j'ai pas de théorie sur le sujet, mais merde, je veux pas travailler comme un con, non. Enfin, je veux dire, je travaille pas, mais j'apporte quand même quelque chose à l'humanité, non? Plus qu'un type qui se lime le cul sur un siège de bureau devant un écran avec des chiffres. J'existe, je travaille pas. Ça a quand même de l'intérêt pour les autres. J'ai carrément la gloire. Ça a un côté vachement altruiste. J'assure une sorte de spectacle permanent. C'est normal qu'on me file du fric. C'est le minimum, même. J'ai le droit d'emmerder la société. Je veux dire, après tout, elle est bien contente. Voilà. C'est exactement ce genre de dialogue et de personnages que vous allez trouver dans le livre. Alors, le Will, c'est le fameux poète rimbaldien, voilà, qui est incontrôlable, qui, voilà. Et vous allez avoir ces dialogues, et même dans cette partie que je vous ai lue, vous voyez que la Lise, la narratrice, bah, elle se retrouve un peu prise sous le flot de ce gars qui, bah, finalement, lui laisse pas d'espace.
Et oui, de la surexistence.
Quoi, voilà. Et donc, c'est très intéressant de lire tout ça et de lire tous ces rapports. Alors, il y a eu une polémique quand même à la sortie du livre. C'est que les personnages, ben, ils sont tous inspirés, on l'a bien compris, de plusieurs personnes qui ont existé. Alors, c'est très clair, et l'auteur le dit plusieurs fois, il le dit même en exergue de son livre, ce ne sont pas des copies parfaites des personnages, sauf que ben, on les reconnaît un petit peu, qu'on le veuille ou non, et c'est normal, parce qu'en fait, ben, c'est des personnages de l'époque. Hein, donc, voilà. Donc, on reconnaît assez vite, comme je disais, Alain Finkielkraut, l'activiste Didier Lestrade, qui était à la tête de ACT UP à l'époque, et qui est cofondateur d'ACT UP, et l'écrivain Guillaume Dustan, que beaucoup de gens ont oublié, mais qui était un petit peu cette espèce d'être un petit peu rimbaldien, qui a explosé. Alors moi, j'allais dire malheureusement, parce que c'est malheureux, il est mort, donc il est mort du sida, donc oui, malheureusement pour lui, mais j'ai connu ce personnage-là, pas personnellement, mais par ses écrits, par ses frasques, et il était vu comme étant une espèce de héros du milieu homo, et il a notamment beaucoup milité contre la capote à l'époque, parce qu'il estimait que c'était un truc d'hétéro-facho. Voilà, je vous laisserai D'accord. lire ce qu'il écrivait, avant de dire complètement l'inverse avant de mourir, hein. Mais bon, c'est ce qu'il explique, c'est des personnages qui étaient très changeants. Alors Lestrade, qui lui est toujours vivant, il dira qu'en 2008, ce livre était la pire tuile qui lui soit tombée dessus. Bon, alors j'ai un peu tendance à lire souvent Didier Lestrade et à savoir que ce n'est pas le genre de personne à prendre des pincettes ni à faire sans emphase. Donc j'ai un peu l'impression que là, il a sorti la phrase pour la sortir. Hein, parce que si c'est la pire chose qui lui est tombée dessus en 2008, il n'avait pas grand-chose qui lui arrivait en 2008. Je ne serais pas en méchanceté envers Didier Lestrade, mais le livre n'est pas non plus catastrophique pour lui. Même si effectivement, eh ben oui, le livre souligne les dérives qu'on peut avoir quand on parle de l'extrême-gauche, quand on est obligé, parce que je dis bien obligé, d'aller coquiner avec les pour avoir notamment les campagnes de prévention nécessaires, et que bah oui, du coup on met de l'eau dans son vin parce qu'on n'a pas le choix, et que c'est pas honteux, et que le livre le décrit très bien, et que je pense pas que c'était une attaque contre Didier Lestrade. Alors Finkielkraut, lui, il a vraiment été désolé qu'on lui ait attribué une maîtresse. Alors par contre, qu'il décrive son parcours qui va de l'extrême gauche à la droite, ça lui a pas posé vraiment de problème. Ce qui lui a posé un problème, c'est qu'on lui ait collé une maîtresse. Donc on voit...
Il est au moins honnête.
Oui, c'est honnête. Mais alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, en réalité, ces personnages, ils ont une inspiration, mais moi, pour avoir lu le roman, je vois pas en quoi ils sont des copies, parce qu'il y a beaucoup de choses où on comprend très vite que on est totalement éloigné de la personne réelle qui existe et qu'on est dans le roman pur. Et d'ailleurs, comme le dit l'auteur, les personnages n'ont jamais existé, mais s'ils réagissent comme des personnes qui sont ou ont été vivants, c'est juste que plongés dans la même situation, bah, les hommes et les femmes font souvent les mêmes choix, et qu'en fait, c'est pour ça que dans le roman, on retrouve des parcours et des choix qui sont... Bah, ceux qui étaient ceux d'une génération passée. Et je vais juste souligner que l'auteur semble avoir... Alors j'avais mis « semble », mais en fait j'ai trouvé entre-temps qu'il avait vraiment travaillé avec Jean Lebitou, qui est mort en 2010, qui était le fondateur du journal Guépier, et qui est aussi un historien de la déportation homosexuelle. C'est grâce à lui qu'on a pu reconnaître que les homosexuels ont été déportés. Voilà, et donc en fait, on comprend mieux, quand on sait ça, comment l'auteur a pu avoir accès à tout un tas de choses, de ressentis, qui dataient de l'époque qu'il n'a pas pu connaître, parce qu'en fait, il a interviewé des gens, en réalité, et il a écouté les gens et leurs histoires. Et c'est en ça vraiment très, très fort et très, très bon pour moi. Voilà. Je vais maintenant vous donner mon avis. C'est ça qui est intéressant pour moi. Non, voilà. Bah, le livre, pour moi, ça a été un très intense à lire. Alors, je vais expliquer pourquoi, parce que j'avais entre 15 et 25 ans au moment des faits dans le livre. Et qu'en fait, du coup, ça a remué en moi des images du passé, des choses que j'ai vécues, des choses que j'avais pas forcément envie de revivre, des ressentis que j'ai vu revenir, que j'avais pas forcément envie de voir revenir. Mais en fait, je me suis rendu compte au final que c'était très positif, parce que quand on ne nie pas la part sombre de son passé, on arrive à mieux vivre son présent. Et qu'en fait, c'est un livre qui fait du bien en faisant un peu de mal. Et c'est, je me suis dit, il n'y a pas mieux que La meilleure part des hommes, parce qu'effectivement, c'est ça. La description de l'époque me paraît très juste. Ces renoncements, comme les fulgurances, parce que les années 80, c'était aussi l'époque des fulgurances. Tu parlais de l'informatique, c'est l'arrivée de l'informatique dans la vie de tout le monde, c'est des choses comme ça. Il y a eu vraiment des choses qui ont progressé très vite. La fin du politique, remplacée par une sorte de pensée homme libéral, et l'arrivée sur la scène médiatique de ce que j'ai appelé, moi, les penseurs express, qui, en deux phrases, vous porteraient une philosophie. Vous savez, on en a plein à la télé aujourd'hui, hein, mais c'est le début à l'époque. La montée en puissance des radios et de la télévision, mais surtout la mort de Libération, en tant que journal vraiment de Libération, qui devient en réalité un journal plutôt gentillet, de gauche, et un petit peu bobo, comme on dirait, mais j'aime pas ce terme-là. Et puis l'abîme.
Parce je te coupe, mais parce qu'avant il était
d'extrême gauche. Ouais, Libération au départ est plutôt d'extrême gauche et aujourd'hui on voit ce qui est devenu Libération. Voilà, clairement il portait des penseurs qui étaient plutôt classés à l'extrême gauche.
D'accord.
Et puis l'abîme qui s'ouvre sous nos pieds. Avec, pour nous, qui sommes la génération désenchantée, je ne ferai pas Mylène Farmer, mais le titre vient de là, c'est qu'on est vraiment la génération qui n'avons plus rien, qui n'avons plus d'idéaux, qui n'avons plus rien. Mmh. Et en fait, c'est tout l'intérêt du livre pour moi, parce qu'en évitant la caricature, le mépris, en évitant le pathos, ils arrivent à souligner les pertes de repères qui ont été fréquentes dans tous les camps, que ce soit à gauche comme à droite, en parlant assez crûment de notre capacité à nous perdre dans nos propres choix. On peut dire que ce roman, il secoue là où ça fait mal. Il secoue sur le fait qu'on est une société aujourd'hui individualiste et qu'en réalité, c'est ça notre problème aujourd'hui et que ça date des années 80. Et il a raison, l'auteur. Depuis milieu des années 80, c'est là qu'est née la notion de l'individualisme. Voilà. Il souligne aussi une propension très humaine à chercher à exister par la provocation plus que par ses convictions, le sens du spectacle et du show, ce qui nous rend perméables aux sirènes du people. Parce que c'est aussi l'arrivée du people des années 80. Voilà. Et surtout, c'est un excellent roman sur les années noires de l'arrivée du sida, sur les contradictions, y compris au sein de la communauté LGBT, sur son explosion, et en fait, pour moi, sa disparition. Sur nos morts qu'on n'a pas su pleurer correctement, sur ses pertes et ses gens merveilleux. Rien que pour cela, le livre est pour moi un indispensable pour qui souhaite ressentir le climat de l'époque, le comprendre, et comprendre pourquoi aujourd'hui, parfois, oui, vous, les jeunes PD, comme on dit, eh ben, y a des vieux PD qui vous engueulent parce qu'ils disent vous avez un petit peu oublié votre histoire. Mmh. Ben voilà, c'est un livre qui rappelle un peu d'où on vient et pourquoi parfois certains anciens ont un peu la nostalgie d'une époque. Voilà. Donc je vous le conseille, Tristan Garcia, La meilleure part des hommes. C'est simple, ça se trouve chez Folio Poche, donc c'est pas trop cher. Non, mais c'est 7€, donc voilà.
Ah bah ouais, carrément.
Ouais, okay. C'est pas cher du tout, donc c'est voilà. Mais c'est un vrai concentré pour moi de.
D'époque. Ouais. Quoi. C'est une radiographie d'une époque et d'un point de vue d'une communauté.
Oui, puis en fait, finalement, d'un point de vue extérieur. Parce que comme l'auteur ne l'a pas connu, il peut se permettre des choses que je pense que quelqu'un qui a vécu l'époque n'oserait pas écrire.
Oui, ou n'aurait pas suffi.
Oui.
Plus de mal, peut-être.
Enfin, ouais. Pas assez
avec
de recul.
Trop de ressenti. Voilà. Ouais.
Voilà. Ouais. Et j'ai été très long, pardon.
Oui, ben bravo. Allez, on passe à la zic.
Si c'est aimer d'amour, c'est mourir d'aimer, sans mourir d'amour, sida, sida né. Elle est année d'amour, à mourir d'aimer, ils sont morts d'amour, d'amour sida né. Oh sida, 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 danger, sida. Oh, sida, sida, amour à mort. Oh, sida, sida, assassin recherché. Mais qui a mis l'amour à mort? Mon amour malade, ma douleur d'aimer. Mon damné d'amour. Sida, sida né, à vouloir t'aimer, d'amour à mourir, j'en mourrai peut-être, sida assassiné.
purée. Passer par ici, repasser par là. Oh, sida, sida, ça s'est recherché. Mais qui a mis l'amour à mort? On rêvait d'amour, à mourir d'aimer. Et l'emmerde d'amour, sida, sida, né. Abandonner, si s'aimer d'amour, c'est mourir d'aimer, sans mourir d'amour, sida, sida, né, l'éternel d'amour, à vouloir s'aimer, ils sont morts d'amour.
Et vous êtes bien dans la causerie sur Radio Cannes du dimanche 22-23h avec Clara qui a assuré en technique pour couper le titre au bon moment. C'était Barbara avec Si d'amour. Alors c'est une copie pirate, je vais le dire, parce que Barbara n'interprétait ce titre que sur scène, elle ne l'a jamais enregistré. Il y a donc quelqu'un qui a piraté cette chanson. C'est une chanson qu'elle a écrite après avoir perdu deux de ses proches morts du sida. Et je voulais juste rappeler que Barbara est une des premières artistes dès 1986 qui faisait distribuer des préservatifs dans ses concerts. Et ça lui a été lourdement reproché, parce qu'à l'époque, c'était mal d'inciter les gens à se protéger.
Oui, c'est
voilà.
Ça.
Donc, c'était juste voilà, rendre hommage à Barbara et à son combat aux côtés de ceux qui ont combattu le sida. Jean-Yves, tu voulais nous parler toi aussi d'un livre, mais oui. Alors on change complètement d'époque et on change complètement de continent.
Aussi.
Partons aux États-Unis.
C'est ça. On va partir aux États-Unis. Alors ce soir, je vais vous parler de Fuck America. C'est un livre d'Edgar Ilsenrath, pardon. Alors c'est aux éditions Attila. Alors je crois, enfin c'est un peu compliqué cette édition. C'est sorti chez Attila et je crois maintenant c'est dans l'édition Le Tripode. Voilà, je vous laisserai chercher, vous avez déjà le nom du livre. Donc c'est un roman semi-biographique, semi-biographique. Je sais pas si ça ouais, se dit, mais j'en ai rien à foutre. Je le dis quand même. Voilà, voilà. Alors avant de continuer...
Il y a des gens qui disent que c'est une autofiction.
Ouais, ça super.
Oh, c'est
alors avant de vous parler plus du livre en lui-même, je vais vous parler d'Edgar Ilsenrath, pardon, pour situer quand même le personnage, etc. Donc il est né à Leipzig en 1926, c'est en Allemagne, pour celles et ceux qui n'auraient pas compris. Il a des parents commerçants, une enfance relativement aisée, tout va changer en 1933, hein, 1933, quand un certain Hitler arrive au pouvoir. Il y a des brimades à l'école, il y a l'appauvrissement de la famille parce que commerçant juif, etc. Hein, donc voilà. Donc,
juif ou vu comme juif? Est-ce qu'ils étaient pratiquants ou pas?
Alors lui, je crois pas. Ouais. Pas des masses, quoi. Enfin, de toute façon, oui, il était vu comme juif.
Ouais,
il s'appelait Ilsenrath, donc voilà, ça suffisait. Hein. En juillet 38, son père, en fait, l'envoie, lui, donc Edgar, et sa mère et son frère, ils partent dans le Yiddishland. C'était un shtetl, et c'était typiquement dans l'Europe de l'Est, effectivement, c'était dans le Yiddish, donc c'était des quartiers ou des bourgs juifs. Donc voilà. En 41, trois ans plus tard, eh ben, bon, bah oui, 50 000 personnes sont déportées dans un ghetto ukrainien. Il en sera, hein, lui aussi, hein, il sera dans toute cette merde. Et à la libération par l'armée rouge, lui, il part en Palestine. Alors bah là-bas, il a une expérience non concluante des kibbutz. Il erre 2 ans dans les villes, il prend des petits boulots. Et sa biographie qui est un peu écrite comme ça. Hein, c'est son sionisme finalement tiédi. Et en fait, il ne retrouvera jamais, selon lui, en fait, le paradis qu'il a perdu à Séret. Donc lui, après, il repart en 1947, il est sur Lyon. Il rejoint, je crois, son père. Il commence l'écriture et il part en 51 à New York, aux États-Unis. Donc voilà, en 1958, il a la nationalité américaine et il termine Nacht, donc Nuit. C'est un roman de réalisme assez cru. C'est sur le ghetto. Donc c'est sur l'intérieur du ghetto. Et donc on peut constater que pour ce livre, il aura mis 10 ans à l'écrire. Vu qu'il est, enfin, il est aux États-Unis toujours et encore, et en fait, lui, ils sont toujours comme un émigré européen qui a absolument pas d'attache aux États-Unis, donc il repart pour l'Allemagne en 75, parce que je crois qu'il avait dit qu'il voulait voir en fait si le peuple allemand avait changé. Et je trouve ça intéressant, enfin. Et en 1980 sort Fuck America, donc le livre que je vous présente ce soir. Par contre, en France, il ne sort qu'en 2009. Voilà, il y a un léger décalage. Il y a un léger décalage. Et il y a deux autres romans de lui qui sont publiés. C'est donc Dinart, La Nuit, et Le Nazi et le Barbier. Voilà. Et donc, Fuck America. Alors, Fuck America, donc on en revient à notre livre. Ça commence, ça s'ouvre en fait sur des courriers échangés entre Nathan Bronski. Donc là, je vais vous donner les noms des personnages. Hein. Nathan Bronski, c'est le père de Jacob Bronski, qui sera un peu notre personnage, ce sera le personnage central du livre, hein, c'est lui qui nous parle de sa vie. Et donc, c'est les correspondances, enfin l'échange entre le père donc, de Jacob et le consul général des États-Unis en 1938, où on voit Nathan Bronski qui demande « S'il vous plaît, filez-nous des visas, on est en 1938, c'est la vraie merde, Hitler est là, enfin, c'est vraiment la merde. » Déjà là, en fait, commence la romance. Parce que c'est-à-dire que Jacob Bronski, qui est quand même Edgar, en fait, Ilsenrath, il va romancer les réponses du consulat. Hein. C'est assez terrible. Hein. C'est assez horrible. Ça se termine par de l'antisémitisme, en fait, dans les réponses, quoi. Ouais, le juif, t'auras le temps, t'as encore 13 ans, et puis tu pourras venir en 52, ça ira très bien.
Mais il montre comment on le recevait quand on recevait une réponse négative, et alors qu'on était dans un climat antisémite.
Quoi. Et oui, c'est tout le truc, en fait. Donc voilà, donc ça commence là-dessus, déjà. Ça pose le climat, dirons-nous. Et donc ensuite, on revient à la réalité hein, de ce donc Fuck America, à la réalité de Jacob Bronski. On est en 1953 et il habite donc New York. On le retrouve souvent, on suit vraiment sa vie, hein, c'est son quotidien. On le retrouve dans la cafétéria qui est fréquentée par les émigrés juifs d'Europe qui ont donc fui. Lui, il est écrivain. Lui, il écrit. Alors, il écrit en allemand, aux États-Unis, sur une histoire qui a lieu quand même en Europe. Et en fait, il écrit toujours la nuit. Donc, il y a aussi toute une ambiance qu'on va retrouver avec des personnages qu'on voit parfois que la nuit, ou en tout cas qui ont plus leur place la nuit. Et donc, ce roman, quand même, s'appelle Le Branleur. Quand on sait derrière que c'est en réalité Die Nacht, la Nacht qui raconte le ghetto, on est toujours dans ce truc-là entre le très sérieux et
l'humour juif. Quoi.
Oui, c'est ce que j'allais dire en fait. C'est
ce qu'on appelle
constant,
l'humour juif. Quoi. C'est constant. Distanciation du malheur. Quoi.
C'est ça. C'est constant. Pardon. Et donc voilà. Et alors sur ce roman, justement, lui, il le dit lui-même, parce que des fois, il se parle à lui-même. Il adore se parler à lui-même. Et il se dit, Bronski, il faut que tu bosses ce bouquin. Ce roman qui est basé sur des événements que tu as vécu. Ces événements que tu dois faire sortir du gouffre. Et c'est justement, c'est là où on sent bien ce personnage qui finalement, toute sa vie tient quand même à cette écriture, en fait. Et il sait que c'est l'écriture qui va l'aider à aller mieux, en fait. Et c'est toujours, alors rien n'est détaillé comme ça, mais on le ressent parce que on suit effectivement ce personnage et on sent bien que l'écriture c'est la centralité, c'est vraiment le centre de tout. Donc après on le suit effectivement dans tous les pans de sa vie, hein, sa piole, il cohabite chez une logeuse juive. Parce que la communauté ça aide aussi à être en sécurité ou en tout cas à trouver des trucs, des plans des fois. Ça parle aussi des autres colocs, monsieur Selig, je crois il s'appelle. Donc il vit bien avec eux. Bon, il oublie de payer les loyers. Tu vois, il négocie, sans vraiment négocier. Il lui dit qu'il la payera bientôt. Pour bouffer, ben, il va taxer un petit peu le coloc, tu vois, sans qu'il s'en aperçoive, et puis ça va aller. Donc vraiment, sa vie, elle est un peu comme ça.
C'est la démerde, quoi.
Mais oui, c'est la démerde, et il y a aussi, j'ai presque envie de dire, il y a une forme d'intelligence, c'est-à-dire dans le sens où de primauté à certaines choses. Lui, ce qu'il veut, c'est écrire, en fait. Pour le reste, il se démerde, en fait. Donc voilà, pardon, je m'éloigne. Il se nourrit un truc, les loyers papillés, c'est ce que je vous ai dit, les mensonges et le faux communautarisme. Ça, c'est ce que je me suis noté, c'est parce que effectivement, il y a cette notion de pouvoir trouver chez cette logeuse juive, le fait de trouver un logement, mais à côté de ça, il va pas s'emmerder non plus à pas la payer, à pas lui payer les loyers, etc. Donc c'est toujours.
Mais parce que pour revenir sur ma question de départ, c'est parce que dans le roman, lui se présente comme un juif non pratiquant au départ. Redevenu un peu pratiquant parce qu'il a connu le nazisme, mais plus par identité que par...
Ah oui, mais oui.
Voilà, parce qu'on le renvoie toujours à ça.
Oui, en fait.
C'est pour ça que je me demandais si l'auteur lui-même était un peu dans cette vision-là, mais c'était peut-être pas défini dans sa biographie.
Non, j'ai pas l'impression.
D'accord.
Et donc voilà, il y a aussi son manque de thunes. Hein. Alors, il calcule tout le temps. Un aller-retour, ça va me faire ça, donc il faut que je fasse ça. Pour le boulot, c'est pareil. En fait, il se dit toujours, il faut que je gagne à peu près ça. Ça va me permettre de tenir les 2 semaines, mais au moins, je vais pouvoir attaquer mon 5e chapitre.
Un vrai artiste.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le cœur, c'est son livre. Le reste, on se démerde. Il faut juste qu'on survive. Mais l'écriture nous fera vivre, en fait. C'est un peu ça, surtout, je pense. Donc voilà. Et alors là, c'est pareil. Hein, les recherches de boulot. On tombe justement sur toute cette exploitation aussi des gens qui sont sans le sou et qui sont exploités. Finalement, des fois, il va servir des gros bourgeois, etc. Enfin, c'est vraiment succulent parce qu'on retrouve un peu de cette notion de classe sociale, en fait, même au sein de sa communauté, etc., présupposée ou comme on voudra, mais il y a toujours quelque chose, en fait, c'est qu'on est toujours au service de quelqu'un. Je trouve que c'est vachement fin, mais en tout cas moi je l'ai vu comme ça. Et alors ses métiers, il va vraiment faire de tout, il va faire du service, mais alors laisse tomber, bon, il va se faire jeter plein de fois parce que le mec il en a rien à foutre, en fait. Et je trouve ça assez fort, vraiment il cherche juste à survivre. Il va aussi faire gardien d'immeuble, il va avoir des embrouilles avec des mecs qui vont arriver, enfin, c'est génial. Il va aussi faire gardien de promeneur de chiens. Et il a trouvé que ça, c'était vraiment génial. Parce qu'en fait, il sortait des chiens avec très peu de responsabilité, mis à part que la chienne ne se fasse pas engrosser. Ça, sa responsable ne voulait absolument pas que ça arrive. Donc, c'est vraiment, il te le détaille vraiment. Et puis, ça lui permet, en fait, de continuer d'écrire, en fait. Parce que chaque jour, je crois qu'il va gagner 4 ou 5 pièces, ce qui lui permet...
Chaque jour, lui permet de continuer,
c'est ça,
d'avancer jour après jour.
C'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, on va aussi, sa vie, c'est aussi sa sexualité, et sa sexualité, elle est hyper...
Exacerbée ? Cru, t'avais dit.
Oui et non, ouais, alors c'est hyper cru, hein. Alors clairement... Il est 22h57, je peux parler un peu cru. Enfin, il va se réveiller un matin avec une trique d'enfer, il bande comme un salaud et il sait plus comment s'en défaire, quoi. Il prend des douches et ça passe pas. Enfin, et on sent toute cette. Je sais pas comment dire. C'est peut-être moi, c'est une projection, mais
une forme de frustration.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de si douloureux parce qu'il y a d'autres moments, il va parler de sa sexualité. Au final, il arrivait plus à bander, en fait. Donc c'est aussi tout ce travail de réappropriation, je pense aussi, de son corps, de ses envies, etc. Et je me dis que des fois, l'obscurité qu'il écrit, en tout cas dans son livre, qui le ronge, des fois, je pense que ça a aussi des interactions forcément sur ton caractère, ta libido, etc. Et alors, des fois, c'est hyper cru. Pardon, des fois, c'est hyper, hyper cru. Enfin, voilà, je vous donnerai un petit peu de détails plus tard. Donc, c'est... Enfin, je trouve que là aussi, je trouve que ça parle un petit peu de ce que toi tu disais par rapport à ton livre, Fab, sur les années 80. Je trouve que c'est une photo, en fait, des années 50, 60, d'un migrant, en fait, quoi, qui arrive dans un pays qui parle pas cette langue. Et on retrouve tout ça, la démerde, quoi. La solidarité qui est quand même là, même si on sait que c'est pas toujours franc du collier, mais au moins on est là pour s'entraider. Enfin, c'est hyper, hyper intéressant. Vraiment, je vous le conseille. Donc voilà, c'est l'exclusion des pauvres, le manque de repères, le déclassement des migrants. Ça, je voulais vite fait vous en parler. Alors, je vais pas vous citer le livre, ça serait trop long, mais en fait, à un moment donné, dans son café, il va se retrouver à côté d'autres personnes, donc des migrants. Et sur une petite page, il va nous parler de monsieur Intel, qui avant était ceci, qui aujourd'hui a beaucoup de mal à se faire à sa nouvelle vie. De monsieur Intel qui tient pas les rythmes en fait des usines new-yorkaises. Donc c'est aussi tout ça.
Le déclassement en fait.
Mais ouais, le déclassement subi en fait, parce qu'ils ont fui la guerre, ils ont fui la mort et que... Eh ben, tu viens, il faut que tu recommences tout en fait. T'es plus personne, t'es plus rien.
Un déclassement qui est toujours d'actualité. Tout
ah mais justement, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est que en fait, il est intemporel. Il parle des gens qui arrivent dans un pays, la langue c'est pas la leur, ils sont pas les plus riches et ils sont plutôt les plus pauvres. Et qu'en fait, ben ouais, c'est la merde quoi.
C'est pas toujours les bienvenus.
Et ils sont pas toujours les bienvenus. Et clairement, alors lui aussi, hein, alors lui-même, il a des fois des propos. Oh non, mais si on peut y aller, hein, sexiste, raciste, et puis il va aussi avoir en échange des propos antisémites, etc. Il y en a un qui va lui dire, vous appelez, vous êtes sûr que vous vous appelez comme ça ? Parce que vous avez un nom plutôt à vous appeler avec un nom d'origine juive. Enfin, et tu sens justement tout ce climat en fait. C'est hyper intéressant. C'est très brut. C'est très vivant quoi. Enfin, encore une fois, c'est excellent. Moi, j'ai adoré. Et donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous rajouter ?
Tu voulais parler de la sexualité, t'as dit je vous en parlerai plus tard.
Ouais, mais je sais plus pourquoi.
Tu voulais nous donner des détails, t'as dit.
Ouais, alors, mais je sais
plus. Il faut nous en donner maintenant, on attend tous.
Non, mais je sais plus pourquoi en fait, sur la sexualité. Ouais, mais alors la voilà. Secrétaire, franchement, je vais pas vous le donner, c'est hyper cru. Moi, ça m'a limite, je me suis dit, mais quel blaireau de parler comme ça.
Oui, mais c'est honnête.
Mais oui, c'est honnête.
C'est ça qui est bien.
Mais
c'est
oui.
Il a pas un personnage parfait.
C'est ça, il ne lise pas son personnage.
Non.
Il a pas tout intégré, déconstruit, tout ça. Non, en fait, c'est un être humain avec aussi les propos de merde qu'il peut avoir, en fait. Et non, après, ce que je voulais vous donner, c'est un peu certains échanges qu'il y a dans le livre.
Ouais.
Parce que c'est très court, c'est hyper vivant. Alors là, il est dans un bar, il y a 3h du mat. Je vois le grand noir au chapeau mou blanc qui sort des toilettes pour hommes. Ce grand noir, il l'avait rencontré déjà un peu avant. À vrai dire, je ne le vois que dans le miroir qui habille le mur derrière le comptoir du troquet. Il m'a aperçu et s'approche. T'écris quoi, petit ? Ça te regarde pas ? Tu perds ton temps ? Possible. Moi, entre-temps, je me suis fait un peu de blé. Aux toilettes pour hommes ? Ouais, bien sûr. Au fait, t'as quel âge, petit ? L'âge de Mathusalem. C'est qui ? Quelqu'un ? T'as l'air d'avoir 50 piges, petit. Moi, je crois que t'es plus jeune, autour des 40, je dirais. Je suis plus jeune que ça. J'y crois pas. Si. Jeune, comment ? 27 ans. À qui tu veux faire croire ça ? À personne. T'es juif ? Ouais. T'as une baraque sur Long Island ? Non. Comment ça se fait ? J'en sais rien. Tous les juifs ont une baraque sur Long Island ? Bah moi non. Pourquoi non ? Parce que non. Et c'est comme ça, il y a des échanges. Alors peut-être que ça vous parle pas du tout,
si,
mais...
Si, mais ouais,
C'est succulent, c'est court et ça dit tellement sur le climat en fait.
Moi ce que je trouve génial dans cet échange, bon, déjà c'est le climat et c'est aussi le fait que le gars en quelques mots explique à quel point d'avoir subi l'horreur peut te paraître d'avoir vieilli d'un coup.
Oui.
C'est-à-dire que
oui.
Le gars pense qu'il a 40 ans, il a 27 ans.
Il a 27 piges.
Et lui, en fait, a subi le ghetto, le nazisme, et arrive ici. Et c'est bien parce qu'il c'est ce que j'aime dans les livres quand on fait pas du pathos, ce que je disais, mais quand on fait du direct.
C'est
et quand
ça.
En fait, on dit, bah voilà, tac, ah, mais t'as 40 ans, bah non, j'en ai que 27. Et cette phrase, en fait, suffit à elle-même à placer le personnage et à placer son bagage, en fait.
C'est exactement ça. Enfin, bref, je pourrais vous en parler des heures, mais on est hyper à la bourre, donc je vais pas le faire. Je vous rappelle le titre, c'est donc Fuck America de Edgar Ilsenrath. C'est aux éditions soit Attila, soit une autre, mais vous trouverez bien. Ça coûte 20 balles, même pas. Lisez-le et lisez aussi toutes les autres...
Et juste dire qu'il est placé dans la même veine que Bukowski, pour ceux qui connaissent.
C'est
voilà, ça peut rassurer certaines personnes.
C'est ça, ça peut vous rassurer.
Voilà.
Bon allez, on passe à la ZIC. We'll be right back. Et vous êtes de retour à la causerie. Et il est 23h passé, on est toujours là. Enfin bon, on va vite faire... Enfin, on va vous donner les infos qui restent.
Bah déjà, le titre, c'était quoi?
Mais oui, j'arrive, tout doucement. Alors, c'était The Salaryman de Phil Astin. Je vous en avais déjà parlé. Je vous avais déjà parlé, passé les deux morceaux précédents qui font partie d'un concept autour de la vidéo, de la musique et des clips, etc. autour du corps et du salariat. Donc là, c'est vraiment The Salaryman. Voyez les clips, etc. Il y a encore un prochain volume qui arrive le 21 décembre. Et je voulais rajouter aussi que Phil Astin est en concert, je crois, la semaine qui vient là, à Saint-Thé et à Dijon. Voilà.
Voilà.
Pouf ! Allez, on passe maintenant au bref rapidement. Fab, tu commences.
Et là, comme tous les lundis à 18h30 à la Lutine, vous pourrez trouver de la bière qui est faite à la Lutine, mais surtout la permanence juridique pour l'aide aux sans-papiers et aux aidants. Voilà, et c'est de 18h30 à 20h30, si ma mémoire est bonne. C'est 91 rue Montesquieu dans le 7e.
C'est ça. Ensuite, on passe à vendredi le 28. Alors, le 28 à 20h à la Griffe, ça se passe, c'est toujours 5 rue Sébastien Griffe dans le 7e. Alors, c'est une soirée livre et doc sur l'IVG. Alors, il y a Nathalie Caron-Landy, qui est l'auteur, je crois, du film Une femme sur trois, qui sera là dès 17h pour parler de son livre et pour faire des dédicaces. Et à 20h, donc, il y aura la projection d'un documentaire autour de l'IVG. C'est 40 ans après. Quelles sont encore aujourd'hui les barrières qui existent? Parce que ça se pratique pas aussi.
Il y en a beaucoup qui existent.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est aussi pour rappeler ça. C'est que c'est pas tout acquis, quoi. Donc voilà, ensuite samedi, donc le 29, je crois que tu as un truc à nous présenter.
Oui, samedi 29, c'est la fête de la solidarité latino-américaine. Ça se passe au CCVA de Villeurbanne, c'est 234 cours Émile Zola, métro Flachet. Alors il y a des animations musicales, de la danse, des ventes de spécialités latino-américaines. Le prix d'entrée est fixé à 10€ et c'est organisé par l'association France d'Amérique Latine. Et ça nous permet de faire un coucou à l'émission Visage d'Amérique Latine tous les samedis de 10h à midi sur Radio Canu.
C'est voilà. Ça. Et pour terminer, bah, c'est toujours le même jour, mais là c'est à 19h30. Alors c'est la soirée de lancement du mois de novembre, le mois de novembre libertaire. Ça fait plusieurs années que ça se passe sur Lyon. Donc là, la soirée de lancement, ce sera au bar de l'autre côté du pont. C'est à partir de 19h, il y aura deux concerts. Et donc ensuite, on vous donnera au fur et à mesure aussi dans les causeries le programme du mois libertaire. Mais ensuite, c'est parti pour un mois de rencontres, de débats sur le sexisme, etc., etc.
C'est 29 octobre, non?
J'ai dit quoi?
Novembre.
Donc c'est la clôture.
Même date.
Voilà.
Pardon, c'est le 29, c'est le 29 octobre, le lancement du mois de novembre libertaire. Ouais, c'est pas facile. Et donc voilà, donc on vous redonnera au fur et à mesure tout ce qui se passe. Il y a des rencontres avec des auteurs, il y a du théâtre, je crois, il y a du débat. Enfin voilà, donc il y aura plein de choses. Donc voilà, je crois qu'on a fini pour les.
Oui.
Pour l'agenda.
Ouais, juste te dire que la semaine prochaine, on reçoit Philippe Deschemins, qui est l'auteur du livre Contoyen, qui sera avec nous pour une heure de discussion, débat autour de son livre et plus largement que de son livre. Voilà.
Bah oui, le livre amène à bien d'autres sujets.
Voilà.
Et ben voilà, je crois que c'est fini. Ouh là, oui.
Parfait.
Parfait, ouais.
Il est quelle heure, j'ose pas me retourner.
Il est 23h50.
Et Clara, on se quitte avec quoi ce soir?
On se quitte avec Fly Me Away de Goldfrapp.
Yes, et bien Laurence.
Et bien bonne semaine à tous et à toutes.
Et la bonne nuit aussi.
Et bonne nuit à ceux qui dorment déjà aussi.
Aussi. Et bon courage pour tout ce qui se passera cette semaine.
Voilà.
Voilà.
Elle attendait que tu lances, mais...
Oui, bah...
Bonne soirée, bisous,
bonne soirée,
tout ça.
Avec beaucoup de joie, parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu tristoun, ton tas de semaines qui allait se passer pour toi.
C'est une semaine au travail, ou au lycée, ou au chômage.
Du plaisir et de la musique.
Ok.
Renvoie ça, alors.